On vous parlait de la météo tout à l'heure avec Audrey. Ça n'a pas changé. Il reste encore du soleil, Audrey. Tu as le temps encore d'en profiter.
Ben c'est ça. On va faire le plein parce que tu dis que cet après-midi, il annonce des orages.
Ouais, mais tu vois, on a dépassé le maximum qui était prévu. On avait quoi? 17 comme maximum aujourd'hui. Puis on est rendu autour de précisément 19 degrés.
Il fait chaud en motadine.
Effectivement.
Faites le soin avec mon coton water matin.
Avec nos gilets capuchons, on fait ouais. Un peu contraste à la station. Mais quand on va sortir tantôt, parce qu'on nous parle d'orages possibles cet après-midi, ben, tu vas être content.
Oui.
Tu vois, tout sur place.
Oui, mais la vérité, c'est que j'ai vraiment pas regardé la météo. Là. J'ai pas fait d'effort.
Non, t'as pas regardé la météo, tu savais pas quel jour on était.
Non, je suis visiblement très perdu ce matin, pareil. Là,
tout va bien.
Je pensais qu'on était mardi.
Pour ce qui est de demain, ce sera nuageux avec des probabilités d'averse à 40%. Passage nuageux en soirée, minimum de plus 2 degrés. Vendredi, ce sera nuageux avec un maximum de 10. Mais comme hier, la bonne nouvelle de la semaine, c'est que ce week-end, ce serait plein soleil, donc ensoleillé, maximum de 19. Ensoleillé aussi pour dimanche avec un maximum de 16. Pour nous joindre en studio, s'il se passe quoi que ce soit, les amis, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021. Avant la pause, on vous en parlait un peu. On parlait du cas de Claude Paquin, qui est accusé du meurtre de sa femme et d'un homme qui a été jugé à tort en raison du témoignage fautif d'un caïd. Il a été incarcéré pendant 18 ans, les amis, puis il a passé 23 ans en libération contre sous de sévères conditions, alors qu'il n'y avait pas tué personne.
Imagine-tu comment c'est épouvantable le temps qu'on t'a volé?
Vraiment, vraiment, quelle histoire. Et heureusement qu'il y a un organisme qui existe au Québec depuis plusieurs années, qui est tenu à bout de bras par des bénévoles, des avocats qui travaillent extrêmement fort semaine après semaine pour libérer des gens qui sont innocents et qui ont été déclarés à tort coupables. On a le plaisir de jaser avec la belle gang du projet Innocence. C'est Nicolas Saint-Jacques, Maître Nicolas Saint-Jacques qui est avec nous. Merci, M. Saint-Jacques, d'être avec nous ce matin.
Merci de m'accueillir, ça me fait plaisir d'être avec vous.
Projet Innocence, c'est un projet d'éducation. Lorsque vous étiez à l'université, vous vous êtes dit « tiens, on va partir ça ».
Ben, c'est pas moi qui l'ai parti. En fait, c'est ma conjointe à l'époque, c'était en 2002.
C'est elle qui vous a mis dans le trouble de même.
C'est ça. Ben, c'est drôle, là, mais c'est un peu vrai dans le fond parce que moi, je connaissais pas ça à l'époque. J'étais étudiant en droit à l'Université du Québec à Montréal. Puis ouais. Elle aussi était étudiante en droit. Puis elle s'est dit, ben, dans le fond, ça existait un peu ce programme-là, mais aux États-Unis, puis dans le Canada anglais. Puis elle se dit, ben, au Québec, il n'y a rien. Puis une personne qui veut, disons, faire reconnaître, dans le fond, qu'elle est innocente, et puis elle s'adresse à qui? Puis elle parle en français. Faut qu'elle s'adresse à des avocats de Toronto qui, généralement, parlent plus en anglais. Il manque quelque chose au Québec. Donc elle s'est dit, ben, moi, je vais partir ça. Mais là, elle était étudiante en droit, fait qu'elle ne pouvait pas représenter des clients à l'époque. Donc, elle est allée chercher une avocate de l'aide juridique pour monter ce projet-là à l'UQAM. Et tranquillement, pas vite, ça s'est bâti. Moi, à l'époque, je n'étais pas impliqué. Ce n'est pas moi qui ai eu la brillante idée de faire ça. Puis par la suite, ben, on a commencé à se fréquenter plus tard, là, quand on a été à l'école du barreau, et puis au début de notre pratique. Puis là, elle m'a dit, ben, ça t'entends-tu de t'impliquer? Puis bon, l'amour est l'amour, évidemment. J'ai pas dit non, puis c'est ça, ben, 16 ans plus tard, ben, je suis encore dans le projet Innocence. Et puis elle a quitté le projet Innocence parce qu'elle a été nommée juge. Et puis, donc, c'est moi qui ai repris la barre là, de l'organisme.
Elle a été nommée juge? C'est-tu elle qui mène à la maison?
Est-ce qu'elle ben, en fait, c'est... J'aime mieux pas répondre à cette question-là au cas où elle est...
Chérie, je t'ordonne de...
Ouais, c'est ça. C'est
OK. Ça. Hey, on va parler du projet Innocence dans son ensemble. Vous avez contribué à faire libérer des innocents qui étaient en prison depuis des années. Combien d'individus touchés à peu près depuis le début de projet Innocence?
Oui, donc il faut comprendre que projet Innocence, on intervient vraiment de façon limitée, dans le sens que nous, ce qu'on fait, c'est on intervient lorsque les personnes ont épuisé tous leurs recours judiciaires. Donc, ils sont allés à la Cour supérieure, à la Cour d'appel, à la Cour suprême du Canada, et là, on intervient. C'est vraiment là qu'on va intervenir. Donc, on a évidemment travaillé sur des dizaines et des dizaines de dossiers, je vous dirais des centaines, là. Mais ultimement, il y a très peu de dossiers qui vont cheminer à travers tout ce processus-là et qui vont permettre une libération de la personne. Donc, au total, en date d'aujourd'hui, on a eu 3 cas vraiment qu'on a réussi à terminer. Il y a un cas qui n'est pas tout à fait terminé, qui va être devant la Cour d'appel du Québec, à Québec, justement. C'est un cas qui vient du district de Québec et je vais le plaider justement le 3 juin. Mais on a réussi à avoir des ordonnances du ministre de la Justice pour avoir des nouveaux procès ou avoir des acquittements ou la Cour d'appel du Québec là, dans 3 cas. Donc, il y a 3 hommes là, vraiment qui ont été innocentés ou à tout le moins là, qu'on a pu mettre un baume sur leur tragédie. Puis évidemment, on a d'autres dossiers comme le cas de Daniel Jolivet, que vous avez peut-être entendu parler, qui est très médiatisé pour une affaire de quadruple meurtre. C'est un dossier sur lequel on travaille depuis plus de 18 ans, mais c'est un dossier qu'on croit qu'on n'a pas réussi encore, mais on voit une lueur d'espoir, puis on travaille toujours là, bénévolement dans son dossier pour s'assurer qu'on puisse le sortir de prison. Mais c'est ça. Donc, puis il faut comprendre aussi que le projet Innocence, ce qu'on fait, c'est qu'on a une intervention plus générale aussi. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont s'adresser à notre organisme, puis ils vont dire, ben, écoutez, moi, je suis victime d'une erreur judiciaire. Puis là, on va dire, ben, OK, mais qu'est-ce qui est arrivé? Et là, ils vont nous expliquer, ben, j'ai pas épuisé mes recours, j'ai pas vraiment de nouvelles preuves, j'ai pas. On va dire, OK, ben, on peut peut-être pas vous aider directement, mais voici des pistes de solution, voici vers quel organisme vous devez vous retourner, voici des noms d'avocats, voici. Donc, on a une intervention aussi, des fois, qui est d'accompagnement envers des personnes qui ne savent pas à qui s'adresser. Donc, il y a des gens qui sont un peu perdus dans le système judiciaire. Donc, on est un peu là pour les amener un peu
Supporter.
vers le droit chemin. Ouais.
C'est une drôle de question, Maître Saint-Jacques, mais comment vous faites? Parce que je me dis, un coup que tu as passé à travers, mettons, un procès, que tu es allé en cour supérieure, cour d'appel, il me semble que tu as déjà épuisé justement toutes tes ressources. Qu'est-ce que vous pouvez amener de plus, en fait? C'est quoi le travail concret que vous faites?
Oui, c'est une bonne question parce que souvent, les erreurs judiciaires vont se régler, effectivement, à travers tout ce processus-là. Donc, mettons, il y a une condamnation qui est injustifiée, bien, en cours de route, elle va être corrigée. Donc, il va y avoir un cours supérieur, un cours d'appel qui va corriger la situation. Nous, on intervient vraiment plus tard et donc, là, souvent, il s'est écoulé 7, 8, 9, 10 ans de temps là, avant que nous, on intervienne dans le processus. Donc là, ce qui arrive, c'est que des fois, il y a des dossiers où on se rend compte que, par exemple, la divulgation de la preuve n'avait pas été faite correctement. Donc, vous vous rappelez, en droit criminel, dans le fond, lorsqu'on a un procès, bien, la procureure, la couronne et les policiers, dans le fond, doivent amasser la preuve qu'ils vont déposer dans le cadre du procès, mais également la preuve qu'ils ne vont pas déposer. Donc, tout ce qui est un élément d'enquête, ils doivent le dire à la défense parce qu'on veut s'assurer que la défense ait un procès équitable. Et nous, ce qui arrive des fois, c'est qu'on arrive 10 ans plus tard et on se rend compte que oups, il y a des choses qui n'ont pas été divulguées. Et comment est-ce qu'on fait ça? Bien, il y a plusieurs façons, là. Des fois, c'est des avocats qui vont nous le dire. Des fois, c'est le client qui va nous dire, écoutez, moi, à l'époque, jamais on m'a parlé de telle, telle, telle affaire. Là, on va questionner l'avocat de première instance, on va faire des demandes d'accès à l'information, puis on va obtenir de l'information, on va découvrir qu'il y a des pistes d'enquête qui n'avaient pas été révélées à la défense, ou carrément, on va découvrir des nouveaux témoins. Donc, je donne un exemple qu'on a eu, là, il y a une dizaine d'années à peu près. On a une personne qui avait été déclarée coupable d'agression sexuelle sur son demi-frère. Et puis, le demi-frère est venu cogner à la porte du projet Innocence, essentiellement pour dire, ben moi, à l'époque, ce que j'ai dit à la police quand j'avais 7 ans, c'était pas vrai.
Oh
C'était
mon
pas
Dieu.
vrai, je n'avais pas été agressé par mon demi-frère. Et ce qui était particulier, c'est que le demi-frère, qui était notre client, ben lui, avait plaidé coupable à l'infraction, même s'il ne l'avait pas faite. Il était tellement convaincu qu'il allait avoir une peine plus grave s'il continuait le processus, qu'il préférait plaider coupable, puis éviter le plus possible les conséquences. Mais imaginez-vous vivre avec cette accusation-là sur les épaules, faire des thérapies pour vous dire vous êtes un agresseur sexuel, vous devez corriger votre problème alors que vous ne l'avez pas fait. Donc, ça a été dévastateur, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Tu sais, des fois, c'est un hasard, quelqu'un vient cogner à notre porte, puis oups, c'est une nouvelle preuve, puis là, on part le processus.
Essaye d'expliquer ça à ta conjointe que t'as fait de la prison parce que t'as plaidé coupable d'avoir agressé ton frère, mais dans le fond, c'était pas vrai. T'sais.
Mais
T'as
voyons, ça
plaidé
passe
coupable, mais
pas,
dans le
là,
fond,
c'est
c'était pas
ça.
vrai. Ça doit être assez complexe. J'ai plein de questions à vous poser, Maître Saint-Jacques, parce que si on va faire un tour au centre de détention de Québec, là, ou dans les pénitenciers fédéraux, c'est rempli de personnes qui n'ont jamais rien fait, qui sont innocents. Ça doit être complexe, des fois, de trouver le petit point ou la petite virgule qui n'a pas été mis à la bonne place pour dire, OK, c'est beau, on travaille là-dessus. Mais de l'autre côté, est-ce que vous devez absolument avoir confiance à 100% envers votre client qui dit, Maître Saint-Jacques, je n'ai jamais fait ce pourquoi j'ai été déclaré coupable? Ou pour vous, ce qui est important, c'est que les droits de votre client soient respectés?
Oui, c'est une bonne question. C'est certain que dans le cadre du projet Innocence, puis là, je mets à part un peu ma pratique sur le côté. Dans le cadre du projet Innocence, évidemment, on veut s'assurer que les droits soient respectés. On veut s'assurer que la personne a eu un procès juste et équitable. Mais généralement, on va prendre des gens qui vont nous dire effectivement qu'ils n'ont pas commis l'infraction. Puis pourquoi? Parce que vous comprendrez, quand on prend un dossier comme, mettons, M. Paquin, ben c'est une dizaine d'années de travail. Et là, j'ai des étudiants en droit qui vont m'accompagner, dans le fond, qui vont à l'université, qui nous accompagnent à chaque session. On a des bénévoles, c'est toutes des heures des heures et des heures incalculables, là, quasiment. Là. On parle des fois des centaines d'heures, des milliers d'heures dans un dossier. Donc, c'est certain que quand on a un dossier du projet Innocence qu'on adopte de manière bénévole, on veut s'assurer quand même que la personne, la première chose, nous dise, ben moi, je n'ai pas commis l'infraction. Maintenant, on n'aura jamais une certitude de est-ce que la personne nous dit vrai ou non, parce que ce n'est pas notre rôle non plus de déterminer avec certitude. Cependant, on se rend compte quand on bâtit un dossier d'erreur judiciaire qu'il y a plusieurs éléments qui ne fonctionnent pas. Et souvent, cette personne-là va maintenir sa version de ne pas avoir commis l'infraction, alors que c'est un peu contre-intuitif de le faire, parce que pour elle, peut-être qu'elle pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle en admettant la commission de l'infraction et en bénéficiant des programmes, en réduisant sa cote de sécurité et éventuellement avoir une libération. Et là, on voit une personne qui nous dit, ben, je suis innocent, je ne vais pas reconnaître le crime, je préfère rester en détention jusqu'à la fin de mes jours. Donc ça, c'est toujours un bon indicateur de savoir, ben, tu sais, pour qu'une personne nous dise ça, là, puis qu'elle préfère mourir en prison, il faut qu'elle soit convaincue de son innocence, parce qu'autrement, c'est pas le raisonnement d'une personne normale,
Non, parce que,
autrement.
exactement, parce que, exemple, mon premier réflexe aurait été de dire, OK, ben si je reconnais mon crime, je vais sortir plus tôt, puis si je reconnais pas mon crime, ben là, je vais rester en prison jusqu'à temps qu'il évalue que je sois plus un danger pour la société, peu importe si je l'ai fait ou si je l'ai pas fait. Mais, tu sais, un cas comme on a à Québec, les Yves Colosse-Plamondon, qui n'était pas un enfant de cœur, soit dit en passant, là, pour ceux qui l'ont connu et qui ont entendu parler de la légende Yves Colosse-Plamondon, passé 26-27 ans de sa vie en prison, puis après un certain temps, il y avait des possibilités de passer devant une commission pour des possibilités d'être remis en liberté. Puis à chaque fois, il disait « Non, je n'ai pas commis ce crime-là. Non, je n'ai pas commis ce crime-là. » Puis il retournait en prison. Le réflexe d'une personne normale aurait été « Regarde, ça fait 25 ans, je suis ici de sacrement, là. Oui, c'est correct, je suis coupable, là, puis je veux revoir la lumière du jour. » Pour lui, il avait toujours refusé ça jusqu'à temps qu'on réussisse à le faire sortir de prison parce qu'on avait prouvé qu'il y avait quelqu'un qui avait menti dans le dossier, qui avait mené à sa condamnation. Puis aujourd'hui, ben, il vit sur la rive sud de Québec. Puis, mais c'est 26 ans, 27 ans de ta vie qu'on t'a
C'est
volé, là.
énorme, là.
Combien ça vaut pour M. Paquin qui a passé des années en prison? C'est 18 ans qu'il a été incarcéré, puis il a 23 ans en libération conditionnelle. Sous de sévères conditions, ça vaut combien ça le prix d'une vie si on met ça monétaire?
Ouais, c'est inestimable. C'est ça qui est un peu un problème toujours, là, d'arriver à un montant en dommages-intérêts. Puis bon, je ne suis pas un avocat en civil, là, que je fais du droit criminel, mais essentiellement, il y a la question de la faute. Est-ce que, bon, elle a causé des dommages? Donc, est-ce qu'on est en détention pendant un certain nombre de temps alors qu'on n'aurait pas dû l'être dans les faits? Après ça, il y a le dommage punitif qui vient avec ça. Il y a également donc une perte également au niveau des gains monétaires que la personne aurait pu faire alors qu'elle est en prison, elle n'a pas pu travailler, par exemple. C'est sûr que quand on regarde la jurisprudence, ce qu'on voit, c'est qu'une journée de prison vaut à peu près 8 000 $ dans les courtes détentions, si on veut. Donc là, c'est difficile de vraiment faire un calcul mathématique là, avec tout ça, mais dans le cas de M. Paquin, par exemple, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a une poursuite civile présentement qui est en cours, mais ce qu'il demande, c'est 64 millions de dollars au total. Ça peut paraître gros, mais en même temps, quand vous calculez 18 ans de prison à 8 000 $ par jour de détention, puis quand on regarde ça, on dit, ben, est-ce qu'une personne raisonnable là, voudrait aller passer une semaine en prison pour 8 000 $ par jour? Bon, tu sais, c'est quand même, quand on regarde ça, une personne se fait arracher sa vie là, pendant tout ce temps-là. Puis on dit, ben, tu sais, c'est difficile, je vous dirais, à concevoir comment avant, je pense, sans l'avoir vécu, là, je pense que c'est très difficile de discuter de l'impact psychologique, l'impact sur une vie humaine, de se voir arraché de la société alors qu'on n'a rien fait. Puis, tu sais, quand on y pense, c'est un peu une espèce de cauchemar éveillé, là. Et moi, j'ai des clients qui me disent ça, là. Ils disent, si tout le monde vous dit que vous êtes coupable, le juge vous dit que vous êtes coupable, la procureure de la couronne vous dit que vous êtes coupable, les témoins disent que vous êtes coupable, tout le monde vous regarde, puis là, tu te dis, est-ce que c'est un mauvais rêve dans lequel je vais me réveiller à un
Ouais.
moment donné?
Même ta propre famille doute de toi, puis vous parlez, bon, d'un 8 000 $ par jour que ça pourrait valoir être incarcéré quand on est innocent. Je me souviens d'une cause qu'on a eue à Québec, je pense que je vais l'appeler l'affaire Marshall, là, je ne veux pas le débaptiser, je me souviens pas de son prénom, mais Marshall était vu comme étant l'agresseur de Sainte-Foy, l'agresseur sexuel de Sainte-Foy, puis il y avait eu plusieurs victimes dans son dossier, puis il y a eu des enquêteurs de Québec qui voulaient absolument pogner ce gars-là, puis à un moment donné, sont tombés sur un gars qui, entre les deux oreilles, ça fermait pas étanche. Puis le gars avait tellement besoin d'attention durant l'interrogatoire qu'il dit oui, c'est moi qui l'ai fait. Oh, oui, c'est moi qui l'ai fait. Puis les enquêteurs n'ont pas décelé que ça ne fermait pas étanche. T'sais. Puis ils n'ont pas été plus loin. Et le gars s'est ramassé en tôle. Puis c'est là où on va se rejoindre Maître Saint-Jacques. Le gars s'est ramassé en tôle. Puis en dedans, c'est pas facile la vie pour un agresseur sexuel de femme ou d'enfant. Là. Le gars s'est fait agresser sexuellement à l'intérieur des murs. Ce qui fait en sorte que quand toute l'affaire a été révélée comme quoi, non, le gars s'était déclaré coupable, mais il ne l'était pas. Le gouvernement a préféré s'entendre à l'amiable avec lui en disant « Écoute, regarde, on va te donner ce montant-là. » C'était plus avec la famille, mais on a donné plusieurs millions à Marshall, plus à sa famille, pour être sûr et certain d'enterrer tout ça. Mais c'est un fiasco monumental. Mais pour monsieur Paquin, au niveau psychologique, ça ne devait pas être facile. Au niveau physique, bon, je ne sais pas quelle forme il a, mais c'est les traumatismes qu'on a. Si on s'est fait agresser à l'intérieur des murs alors qu'on était innocent, tu sais, je veux dire, il n'y a rien de plus ignoble que ça.
Ouais, dans le cas de M. Paquin, même, je vous dirais qu'il a été poignardé à l'intérieur des murs de la prison. Tu sais, puis quand on regarde son parcours, M. Paquin, c'est quelqu'un qui a eu une vie dans un contexte très défavorisé, là. C'est quelqu'un qui il a pas eu facile quand il était petit. Puis c'est un peu ça, il est tombé dans le crime, dans une organisation criminelle. Puis là, évidemment, on a profité de lui à travers tout ça. Puis finalement, il a mis deux crimes sur le dos. Tu sais, c'est ça qui est arrivé. Fait que c'est une tragédie. Quand on relit l'histoire de M. Paquin, c'est très difficile à lire parce que c'est une tragédie de la première journée quasiment de sa vie jusqu'à aujourd'hui, qui a 82 ans. Puis là-dedans, on a volé 41 ans de son existence.
Est-ce que vous tempérez l'espoir de vos clients? Parce que j'imagine que ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez réussir à les sauver, là.
Oui, c'est une bonne question. C'est sûr qu'on aborde ça rapidement avec les clients parce que, bon, il y a une question, est-ce qu'on va réussir? Ça, c'est la première question. Effectivement, il y a très peu de cas qui vont réussir. Mais dans l'ordre des choses actuelles, il y a à peu près un dossier d'erreur judiciaire qui est reconnu à travers le Canada par année. Donc, ça vous donne, là, c'est pas
C'est pas beaucoup,
facile
hein?
d'arriver là. C'est appelé à changer, là, mais puis. Bon, puis en plus de ça, non seulement il n'y a pas beaucoup de chances de succès, mais en plus, c'est un très long processus parce que nous, de notre côté, on doit reconstituer un dossier qui souvent date de plusieurs années. On a des papiers éparpillés un peu partout. L'ancien avocat en a un petit bout. Il y a quelqu'un d'autre qui en a quelque part. Donc, ça devient très compliqué de ramasser tout ça. Après ça, découvrir des nouveaux éléments de preuve, rencontrer des témoins. Tu sais, c'est tout un processus. Et là, on envoie ça au ministre de la Justice. Et éventuellement, ça prend plusieurs années d'avoir le ministre de la Justice avant qu'on ait une réponse. Fait que quand on parle à la personne, on dit oui, premièrement, il y a très peu de chances. Mais en plus, c'est un très long processus. Est-ce que vous êtes prête à vous engager là-dedans? Puis là, on a des gens qui sont en détention, qui pour eux, peut-être, c'est plus logique de le faire parce qu'ils sont en détention à ce moment-là. Mais il y en a d'autres personnes qui sont à l'extérieur des murs, qui sont en libération conditionnelle. Puis là, il dit, oui, j'ai le goût de passer à travers le processus, mais tu sais, c'est un processus de peut-être 5, 6, 7, 10 ans, donc durant lesquels on ne tourne pas la page, tu sais, parce que ces gens-là vivent dans ce processus encore-là de, je dis, je vais réussir à démontrer mon innocence. Donc, c'est quand même lourd de, comment dire, de conséquences de s'embarquer dans ce processus-là, alors que les chances sont petites et que le processus est une très, très, très longue journée.
Le gouvernement essaie-tu de faire des deals rapidement pour justement que ça soit pas trop médiatisé, que ça se rende pas en cour, qu'on connaisse pas le fameux montant qui est octroyé à la victime du système? Parce que dans le cas de Marshall, ça a été ça. C'est le gouvernement qui s'en est mêlé en disant non, ça ira pas en cour, on a fait vraiment une erreur, puis ça va être meilleur pour nous autres si on fait une entente hors cour que si on va en cour direct. Est-ce que le gouvernement arrive très rapidement dans la cause de M. Péloquin? Est-ce que de M. Paquin, pardon, est-ce qu'il est arrivé rapidement ou vous n'avez pas encore entendu parler?
Ben là, je peux peut-être pas rentrer dans cette discussion-là, mais ce que je peux dire de façon générale, c'est que le système d'indemnisation au Québec, il repose sur ce qu'on appelle le factual innocence. Donc, dans le fond, l'innocence factuelle, là, qui peut être une mauvaise traduction, là, mais essentiellement, il faut démontrer qu'on est innocent. Donc, si c'est le cas, là, il y a un système d'indemnisation automatique du gouvernement. Autrement, il faut poursuivre le gouvernement. Donc, dans ces cas-là, il faut envoyer une mise en demeure au gouvernement. Éventuellement, si on ne répond pas ou on répond qu'on va rien faire, ben là, il y a une poursuite qui est déposée. Dans le cas de M. Paquin, par exemple, elle est déposée, sa poursuite, depuis ce lundi. Et donc, on va voir la réaction là, du gouvernement pour la suite des choses, mais évidemment, je ne peux pas, malheureusement, commenter, étant donné que c'est une action en justice présentement. Mais bon. Ce que je peux dire pour le moment. Je suis désolé, je ne peux pas aller plus loin parce que c'est devant les tribunaux.
Maître Saint-Jacques, vous le savez, j'ai pas le choix de m'essayer. Il faut que j'essaie de
Oui.
tirer les questions. Maître Saint-Jacques, comment on fait pour financer un projet Innocence comme ça? Vous travaillez quoi, un 15, 20, 25 heures par semaine pendant des années pour faire sortir votre client de prison parce qu'il est innocent, il est victime d'une erreur judiciaire? Comment on fait pour financer ce type de projet-là? Pourquoi c'est pas, pourquoi le gouvernement vous octroie pas un certain montant par année pour faire travailler, exemple, des jeunes qui étudient pour être avocats à l'université pour vous? Y a-t-il des choses qui sont faites en ce sens?
Ben, c'est ça. Nous, dans le fond, on travaille beaucoup sur, comment dire, le bénévolat des autres et l'aide gratuite là, différents intervenants du système de justice. On n'a pas vraiment de financement au projet Innocence. C'est un très petit organisme en termes d'administration comme tel. Ce qu'on fait surtout, c'est on va chercher l'expertise des avocats qui sont bénévoles. Donc, on a plusieurs avocats qui nous aident, dans le fond, dans différents dossiers. Donc, ce n'est pas juste moi, là. Je veux être clair avec ça, là. C'est qu'on a plusieurs avocats qui vont nous aider. Mais ce qui est intéressant aussi au projet Innocence, c'est que c'est un projet qui a été bâti à l'UQAM. Et donc, il y a un cours qui se donne à l'UQAM à chaque session et dans lequel moi, je vais enseigner, je suis chargé de cours à l'UQAM, puis j'ai des étudiants. Donc, j'ai environ, je vous dirais, entre 9, 10 là, et 14, 15 étudiants par session qui vont nous aider dans les dossiers. Pour nous autres, ça, c'est très important parce que moi, je n'ai pas le temps, par exemple, d'aller lire toutes les transcriptions d'un procès. Je n'ai pas le temps de faire des résumés de la preuve. J'ai pas le temps de... Mais les étudiants ont le temps de faire ça. Puis pour eux, c'est une belle première, un beau premier contact, si on veut, avec la profession. Ils peuvent parler avec les clients, rencontrer les clients, éventuellement préparer, dans le fond, des demandes de divulgation, donc résumer la preuve. Et ça va m'aider beaucoup, moi ou les autres avocats qui vont travailler dans le dossier pour justement compenser ce temps-là qu'on n'a pas, justement, qu'on doit faire d'autres choses de notre vie. On doit pratiquer aussi la défense, mettons dans mon cas, dans ma pratique générale. Donc, j'ai un 10 heures peut-être, 15 heures. Il y a des semaines que je fais ça toute la semaine, mais autrement, tu sais, ce 10 heures-là, il est important, mais j'ai peut-être 40, 50 heures de travail d'étudiant derrière moi qui me permet justement d'utiliser de façon optimale, moi, mon petit 10 heures par semaine. C'est comme ça qu'on réussit. Puis l'autre façon qu'on réussit à avancer les dossiers, c'est qu'on, dans ma pratique, j'ai beaucoup de contacts, j'ai beaucoup de gens que je rencontre, des experts, entre autres. Ben, moi, j'engage beaucoup d'experts et à un moment donné, j'ai des experts qui me disent, ben, moi, je suis intéressé au projet Innocent, je serais prêt à donner un coup de main. Fait que là, je leur dis, ben, on n'a pas d'argent, là, nous autres, là, pour payer des expertises. C'est pas grave, je vais le faire bénévolement. Fait qu'on en a eu, ça, des cas
Wow.
comme ça, des experts qui s'offrent à nous.
Et de l'autre côté, je suis disparu, Maître Saint-Jacques. Il y avait un verre de vin à l'endroit où je suis disparu, puis il y en avait un autre au bout de la table. C'est les empreintes digitales d'Audrey Pinchot qui ont été retrouvées. On pense que je suis décédé, que je suis quelque part dans le fleuve Saint-Laurent, et Audrey est la dernière personne à m'avoir vu. Elle se ramasse en prison parce qu'elle a été déclarée coupable. Elle a une tête de coupable, d'ailleurs. Mais elle dit, moi, je suis innocente de tout ça. Elle a toujours dit en cour qu'elle était innocente, qu'elle m'avait rien fait. Elle fait comment pour vous rejoindre? De quelle façon on vous rejoint, Maître Saint-Jacques?
Oui, donc vous pouvez aller sur notre site web, premièrement, qui est innocencequebec.com. Donc, vous allez avoir les coordonnées, dans le fond, pour nous rejoindre. Nous, généralement, la meilleure façon de nous rejoindre, c'est par la boîte courriel. Donc, à info en commercial innocencequebec.com. Et les gens peuvent nous écrire. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on traite les demandes, on rappelle les gens ou on leur répond. Donc, on a un groupe d'étudiants, justement, qui vérifie les courriels qui rentrent. Et éventuellement, on peut rentrer en contact. Des fois, on fait simplement répondre à des courriels. Des fois, on a un contact téléphonique ou une rencontre par visio avec les clients. Et c'est comme ça qu'on commence, qu'on amorce le processus, dans le fond, de révision. Puis, si ce n'est pas le bon recours, ben, on vous le dit tout de suite quand même. T'sais, si ce n'est pas le bon recours, on va vous diriger vers le bon organisme.
Maître Saint-Jacques, ça a été un plaisir.
Pareillement, merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui.
Passez une
Bonne
belle fin
journée.
de journée, puis passez le bonjour à Madame la juge.
Oui, très bon.
Salut.
Bonne
Bye-bye.
journée.
Ça doit être capoté, hein? Quand tu es un couple d'avocats, puis là, tout d'un coup, il y en a un qui devient juge.
Ça doit être spécial.
Juste, ben, exemple, du jour au lendemain, je sais pas, moi, t'es au criminel, t'es pas au civil. Puis là, ben, t'as monsieur
Tu
le
peux pas
juge ou
plaider
madame la
devant ta
juge.
blonde, c'est sûr
Ben,
que non.
techniquement, oui, là.
Tu penses, c'est sûr qu'il y a des règles. On aurait dû demander, c'est sûr qu'il y a des règles pour ça.
Ben, je pense que non.
Parce que veux, veux pas, t'as beau devoir être impartial, demain matin, c'est ton chum qui plaide, puis dans ta tête, ça fait bien du sens, puis c'est sûr que t'en parles à la maison.
L'avocat pourrait se récuser, effectivement. Tu veux
mais
pas affronter ta
femme...
c'est
sûr qu'il y a des règles.
Non, tu veux pas affronter ta femme en cours, là.
Ben non, mais au-delà de ça, je veux dire, moi mettons, je suis accusée puis je me fais défendre ou
peut-être. Ah oui!
Jamais je crois qu'à la maison, ils s'en parlent pas, là.
C'est clair qu'ils s'en parlent.
Ben voyons, on est innocent de penser le contraire, là.
Ouais.
Franchement.
Mais de l'autre côté, c'est ta chance d'embaucher le mari de la juge.
Ben non, mais Yann, c'est impossible. C'est impossible. J'y crois pas pour deux scènes. Voyons.
Je pense que t'as raison. Ben, je niaisais, là, mais effectivement, je pense que t'as raison comme pas pire. Hey, t'es-tu encore avec moi, toi?
J'étais encore avec toi. Toi, t'es-tu encore avec moi?
Ouais, je trouve ça juste cruel d'avoir passé des années derrière les barreaux, puis que le gouvernement te dise non, on te doit rien. Mm. Il faut que tu poursuives le gouvernement du Québec pour t'avoir foutu en tôle pendant des années, alors que t'étais innocent.
C'est une vie perdue carrément, là.
Ouais. Projet Innocence, c'est le projet dont on vous parlait dans les dernières secondes. Et l'homme que vous entendiez, c'était Nicolas Saint-Jacques, qui est vice-directeur de Projet Innocence. L'entrevue va être disponible sur l'application blvd.fm dans les prochaines minutes. Pour te joindre en studio, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021. Après la pause, on jase avec le directeur de la sécurité civile de la Ville de Québec, Martin Bolduc, qui est accompagné de José Bérubé, chef coordonnatrice en sécurité civile, pour parler de la semaine de la sécurité civile et des métiers qui y sont associés. Donc, bien hâte de jaser avec eux. Restez là. Rage Against